VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 25 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, les opposants au président Alpha Condé ont défilé en masse hier à Conakry pour dire non à un éventuel troisième mandat.
Des troupes ouest-africaines au Mali, au Niger et au Burkina, fin 2019 ou début 2020, pour aider à lutter contre les groupes djihadistes.
En République démocratique du Congo, réunion à Goma de généraux des Grands Lacs sur la neutralisation des groupes armés.
Au Cameroun, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, annonce une aide de 45 millions d'euros à l'extrême nord lors d'une visite dans cette région touchée par Boko Haram.
Davantage de ressources militaires américaines vont être envoyées en Syrie pour mieux protéger les champs de pétrole contre le groupe État islamique ou tout autre groupe déstabilisateur.
Et dernière minute, au Botswana, le président sortant, Masisi, a été déclaré vainqueur des élections.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Guinée, des manifestants vêtus de rouge ont défilé en masse hier à Conakry pour dire non à un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. Il est confronté depuis 2 semaines à une contestation qui a fait une dizaine de morts selon l'opposition. Une foule considérable, des centaines de milliers de personnes selon des journalistes locaux, 1 million selon les organisateurs, 30 000 selon le gouvernement, a marché sur plusieurs kilomètres au cri de « Amoulanfe ». Ça ne passera pas dans la langue locale ou abat la dictature. Sans heurts, malgré une forte et discrète présence policière et le contexte de crise politique. Nous reviendrons sur cette marche en seconde partie de cette édition avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
La République démocratique du Congo et les armées des pays voisins veulent unir leurs efforts contre les groupes armés dans la région des Grands Lacs. C'est ce qu'a annoncé hier un haut gradé de l'armée congolaise à l'occasion d'une réunion à Goma. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Des délégations de haut niveau des armées du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et de la Tanzanie prennent part à cette réunion dont l'objectif est de réfléchir à comment combattre collectivement les groupes armés dans la région des Grands Lacs. Nous sommes venus nous concerter afin d'harmoniser nos réflexions stratégiques sur la mutualisation de nos efforts en vue d'une paix réelle, a déclaré le général Léon Richard Kasonga, porte-parole de l'armée congolaise. L'officier n'a pas souhaité indiquer le calendrier des opérations pour ne pas faire une part belle à l'ennemi. Ces opérations visent l'éradication des groupes armés étrangers et nationaux actifs dans l'ex de la RDC. Ouverte hier, cette réunion sur la neutralisation des groupes armés se poursuit ce vendredi selon l'état-major général de l'armée congolaise.
Pour leur part, les chefs militaires des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vont se réunir le 11 novembre. Ils vont tenter de projeter fin 2019 ou début 2020 des troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger afin de lutter contre les groupes djihadistes. Jean-Roger Bion.
Pour citer le ministre ivoirien de la Défense Ahmed Bakayoko, les chefs des opérations vont monter des opérations conjointes qui feront intervenir des bataillons sénégalais, ivoiriens et autres sur des théâtres maliens, burkinabés et autres. Il a ajouté, nous voulons déterminer des zones comme la zone des 3 frontières Mali, Burkina, Niger où nous allons faire des manœuvres conjointes. Donc des présences solidaires qui vont nous permettre d'occuper l'espace, réduire l'espace des terroristes et permettre aussi à ces armées Mali, Burkina Faso, Niger, qui sont en proie à des attaques quotidiennes, de souffler un peu. Le lieu de la réunion du 11 novembre n'a pas été précisé.
La France va accorder une aide de 45 millions d'euros à la région de l'extrême nord du Cameroun, touchée de plein fouet par les exactions du groupe djihadiste Boko Haram. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l'issue d'une rencontre avec des responsables politiques et sécuritaires à Maroua, capitale de cette région. L'aide est destinée à améliorer la voirie, la distribution d'eau et le système d'assainissement de Maroua.
L'administration Trump a invité le 6 novembre à Washington les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan pour discuter du grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil Bleu, source d'une tension croissante entre Addis Abeba et le Caire, qui craint pour son propre approvisionnement en eau. La lettre d'invitation obtenue par la Voix de l'Amérique a été envoyée par le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, aux trois pays et à David Malpass, président de la Banque mondiale. De son côté, Moscou, selon l'agence de presse TASS, est prête à offrir ses bons offices aux Égyptiens et aux Éthiopiens.
Le premier sommet Russie-Afrique a ouvert une nouvelle page dans les relations entre Moscou et le continent africain. En clôturant l'événement hier, le président Vladimir Poutine a promis d'intensifier la coopération pour réaliser les objectifs de Moscou. Eric Manerakiza.
Le président Vladimir Poutine a salué deux jours de rencontres professionnelles et amicales. « Nous avons l'intention d'intensifier la coopération », a poursuivi M. Poutine, rappelant l'objectif russe de faire passer à 40 milliards de dollars les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique d'ici à 5 ans. Il a confirmé que des sommets Russie-Afrique seront désormais organisés tous les 3 ans. Une déclaration commune à l'issue du sommet dénonce notamment les dictats politiques et le chantage monétaire et appelle à une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour lui donner une plus grande représentativité. Vladimir Poutine a aussi promis que la Russie continuerait à aider les pays africains en effaçant leurs dettes. Il a assuré que ce montant dépassait déjà 20 milliards de dollars. Tous les 54 États africains étaient représentés à Sochi, dont 43 chefs d'État ou de gouvernement, mais aucun contrat majeur n'a été annoncé durant ces 2 jours.
Au Botswana, le président sortant, Mogwetsi Masisi, a été élu pour 5 ans à l'issue des élections de mercredi où son parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1966 a remporté la majorité au Parlement. C'est ce qu'a annoncé le plus haut magistrat du pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les planificateurs militaires américains appuient les appels du président Donald Trump pour protéger les champs de pétrole en Syrie contre le groupe terroriste État islamique et aussi contre tout autre adversaire potentiel. Il s'apprête à envoyer à cette fin davantage d'équipements et éventuellement d'autres troupes.
Ici, toujours aux États-Unis, sur le plan politique, la sénatrice Elizabeth Warren est en tête de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Selon un nouveau sondage publié hier par l'université Quinnipiac, elle accentue son avantage sur l'ancien vice-président Joe Biden. Le point avec Bagassi Koura.
L'élite de 70 amène une campagne résolument marquée à gauche. Elizabeth Warren est créditée de 28% d'intention de vote parmi les démocrates et leurs sympathisants. Elle devance Joe Biden, 76 ans, crédité de 21%. Selon ce sondage Quinnipiac, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui a été hospitalisé au début du mois après une crise cardiaque, est à 15% devant le maire de la petite ville de South Bend dans l'Indiana, Pete Buttigieg, qui a 10%, la sénatrice de Californie, Kamala Harris, avec 5%, devance sa rivale du Minnesota, Amy Klobuchar, avec 3%. Mais selon l'agrégateur de sondage Real Clear Politics, Joe Biden reste quand même en tête avec 27,2% au niveau national, devant Elizabeth Warren, 21,8%. Tim Ryan, élu de l'Ohio, a annoncé hier qu'il se retirait de la course. Les démocrates sont désormais 18 à se disputer la nomination pour affronter le président Donald Trump en novembre 2020.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson appelle à la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre pour, dit-il, sortir le Brexit de l'impasse. Abdourahman Dia.
Si le Parlement veut plus de temps pour étudier la loi sur l'accord de Brexit, les députés peuvent l'avoir, mais ils doivent approuver des élections législatives le 12 décembre, a déclaré le Premier ministre britannique, à une semaine de la date prévue pour la sortie de l'Union européenne. Boris Johnson a également reproduit sur son compte Twitter une lettre au chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn dans laquelle il plaide pour l'organisation d'élections afin de sortir de l'impasse. Il est de notre devoir de mettre fin à ce cauchemar et de procurer au pays une solution aussitôt que ce sera raisonnablement possible, écrit le Premier ministre britannique. Il accuse le Parlement de refuser de prendre des décisions. Le Royaume-Uni, qui s'est prononcé par référendum en juin 2016, devait initialement sortir de l'Union européenne le 29 mars, une date déjà repoussée à 2 reprises. Les députés britanniques ont approuvé mardi le principe de l'accord de Boris Johnson avec Bruxelles, mais se sont prononcés contre le calendrier d'examen accéléré proposé par le Premier ministre.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Pendant le sommet Russie-Afrique à Sotchi, l'agence nucléaire russe Rostom a signé un accord préliminaire de coopération pour construire un centre de recherche au Rwanda. Le géant russe a signé un accord avec l'Éthiopie pour un projet de construction d'une centrale nucléaire de grosse capacité. La société publique russe Rosgeo, spécialisée dans les études géologiques et sismiques, a également signé un accord avec le Rwanda pour faire de la prospection de matières premières. Lors d'un échange avec des chefs d'entreprise à Douala, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a promis des partenariats gagnant-gagnant aux pays africains qui font le choix des entreprises françaises, en référence au grand chantier d'infrastructures chinois. Pékin développe son projet de nouvelle route de la soie à travers la construction de ports, de lignes ferroviaires et d'aéroports. La compagnie minière nigérienne Cominac a annoncé l'arrêt de sa production d'uranium dans 2 ans en raison de l'épuisement des réserves et d'une forte baisse des prix. La date d'arrêt de la production du site d'Akoutam est fixée au 31 mars 2021. La Cominac a clôturé l'exercice 2017 avec une perte nette de 16 milliards de francs CFA et d'au moins 17 milliards pour 2018, a déclaré en mai dernier le ministre des mines Hassan Barazi.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Sénégal, la Tunisie et le Nigeria sur le podium du classement FIFA Zone Afrique.
Oui, le Sénégal tient toujours le haut du tableau en Afrique avec la Tunisie et le Nigeria. Les Lions de la Teranga sont 20e dans le monde, les Aigles de Carthage 25e et les Super Eagles perdent un rang pour se classer 35e. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, est 4e sur le continent pour une 38e place mondiale. Le Maroc complète le top 5 africain et pointe à la 42e place dans le monde. L'Égypte, le Ghana, le Cameroun, la RDC et la Côte d'Ivoire bouclent le top 10 en Afrique. Au plan mondial, le podium est toujours entretenu par la Belgique première et suivi par la France et le Brésil.
Nantes face au duo Slimani-Ben Yedder en ouverture de la Ligue 1 ce soir.
Nantes, une des meilleures défenses de Ligue 1, passe un bon test face à Monaco et son duo d'attaque en pleine forme, Slimani-Ben Yedder, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Wissam Ben Yedder, meilleur buteur du championnat avec 8 buts et Islam Slimani, meilleur créateur, 5 buts et 7 passes décisives, porte à eux deux les espoirs de remonter de Monaco. Nantes, lui, doit sa place de dauphin du PSG, deuxième avec 19 points, à son intraitable défense. Leur rencontre ce soir à 18h45, temps universel, promet donc a priori une belle opposition de style.
La Chine accueillera la Coupe du Monde des clubs 2021.
Il s'agira de la première édition qui se disputera à 24 équipes. Elle devrait permettre d'atteindre 50 milliards de dollars de revenus commerciaux, d'après le président de la FIFA, Gianni Infantino. Cette nouvelle formule se disputera tous les 4 ans et remplace la Coupe des Confédérations. L'actuelle version du Mondial des clubs oppose 7 équipes, dont le vainqueur de la Ligue européenne des champions. Les éditions 2019 et 2020 auront lieu au Qatar. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a aussi annoncé que son organisation va doubler le budget destiné au développement du football féminin, le portant à 1 milliard de dollars sur les 4 prochaines années.
Chelsea Colby, forfait pour la demi-finale du Mondial de rugby.
L'ailier star des Springboks ne disputera pas la demi-finale contre le pays des Galles dimanche. Cheslin Kolbe s'est blessé à une cheville lors de la victoire écrasante en phase de poule contre l'Italie, 49-3. Il sera remplacé par Sbou Nkosi, qui formera la paire d'ailier avec Makozole Mapimpi, meilleur marqueur de la compétition avec 5 essais. Le sélectionneur sud-africain n'a effectué aucun autre changement sur la feuille de match, gardant ici son bas à 6 avant et 2 arrière pour la demi-finale dimanche à Yokohama. Pour finir, Idrissa, il y avait 2 rencontres au programme de la NBA la nuit dernière.
En fait, 3 rencontres. D'abord, Atlanta a battu Détroit 117-100. Victoire aussi de Milwaukee sur Houston 117-111. Et les Warriors Golden State ont été massacrés par les LA Clippers dans ce qui aurait pu être considéré comme un match revanche entre les deux finalistes de la NBA de l'année dernière. Kawhi Leonard de Toronto étant maintenant avec les Clippers.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, les opposants à un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé sont descendus en masse hier dans les rues de Conakry, la capitale. La marche de protestation qui s'est déroulée sur l'autoroute Fidel Castro était conduite par le chef de file de l'opposition et plusieurs autres leaders politiques, membres du Front national pour la défense de la Constitution. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant sur place.
La marée humaine s'est ébranlée sur l'autoroute Fidel Castro. À sa tête, Sylou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition.
Le peuple de Guinée ne veut pas de troisième mandat. Monsieur Alpha Condé devrait le comprendre. Il y a eu quand même beaucoup de tueries. 115 citoyens abattus à bout portant, sans jamais bénéficier de la moindre compassion du gouvernement, de la moindre enquête et de la moindre de justice. C'est ce hack-là qui va l'empêcher de comprendre le message du peuple.
Plusieurs figures de l'opposition politique et de la société civile guinéenne ont conduit la marche de protestation. Pour Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes, cette grande mobilisation est un signal envoyé au président Alpha Condé.
Le peuple de Guinée, dans sa majorité la plus écrasante, vient de dire au président Alpha Condé de renoncer à ce projet satanique, à ce projet de troisième mandat. Je crois qu'aujourd'hui, en regardant les médias, il devrait en tirer les leçons et se prononcer solennellement en disant au peuple de Guinée, je vous ai écouté, je vous ai entendu, je laisse ce projet. Et c'est la Guinée ira mieux.
La foule a scandé en soussou à Moulanfé, qui signifie « ça n'aura pas lieu », les manifestants d'une seule voix exigent une alternance.
Dites à Alpha Condé qu'il n'est pas la seule solution dans ce pays. Il y a 13 millions de Guinéens qui passent la main à d'autres personnes. Un groupe de 100 personnes ne peut pas prendre toute une nation en otage. Il y a d'autres solutions qui passent la main, qui soient le Mandela de la Guinée.
Ça va pas dans le pays.
Pas de troisième mandat en 2020, pouvait-on lire sur les pancartes. La marche s'est terminée sans incident sur l'esplanade du stade de 28 septembre de Conakry. Dans un communiqué publié jeudi soir, le gouvernement s'est félicité du bon déroulement de la marche. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En République démocratique du Congo, poursuite aujourd'hui à Goma, capitale du Nord Kivu, de la réunion des états-majors des armées de la sous-région des Grands Lacs. Cette deuxième rencontre regroupe des généraux de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et de la Tanzanie pour mener conjointement des opérations contre les groupes armés dans l'est de la RDC. En attendant le communiqué final dans les rues de Goma, les avis restent partagés. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Les pays hôtes qui est la RDC ainsi que le Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, mais aussi les représentants de la force et de l'armée américaine pour l'Afrique, AFRICOM en sigle, et la MONUSCO ont été conviés à cette rencontre, la deuxième après celle de septembre dernier. Le général Richard Kasonga, porte-parole des FARDC.
Et bien, nous sommes venus nous retrouver pour la suite afin de mettre un terme à nos réflexions stratégiques sur la mutualisation de nos efforts afin de produire la paix à l'est du pays et dans la sous-région.
Les premières cibles pour cette opérations pourront être les groupes armés étrangers tels que les islamistes ougandais des ADF, la rébellion rwandaise des FDLR, les Burundais des FNL ou les raids de Tabara, tandis que parmi les groupes congolais, il y a comme les Nyatura, les Maïmaï dans la province du Sud et du Nord Kivu. Ces pays associés à cette opération pourraient fournir des forces spéciales, une nouvelle qui provoque déjà des remous et des méfiances ici au Nord Kivu, une province habituée à des rébellions, et que ces deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, sont accusés de soutenir. Patrick Bahala et Adalbert Kiengi sont habitants de Goma et acteurs politiques.
En termes de jurisprudence, nous ne pouvons plus jamais accepter que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi tentent de faire semblant de venir encore nous aider. Nous pensons aujourd'hui, et vous sentez déjà dans la population, il y a des remous, parce que pour nous, si le président de la République prend cette option, pour nous, ça sera une autre trahison.
C'est ici pour moi l'occasion d'interpeller tous les députés ressortissants de la province du Nord Kivu de ne pas cautionner ça à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, le chef de l'État ne peut pas agir par l'acte de gouvernement. Par exemple, moi, je suis ressortissant de Rutshuru dans le Bwito. Je ne peux pas accéder là-bas puisque les Rwandais, ils sont investis chez nous, ils se sont installés chez nous comme autochtones de là, ils sont insécurisés chez nous, je ne peux pas aller. Les kidnappings, tout ce qui se passe au Nord Kivu, tout ça, c'est la résultante de l'occupation rwandaise ici. Puisque les FDLR, les ADF, il faut que les Rwandais et les Ougandais acceptent aussi de négocier comme nous, nous l'avons fait.
Pour la société civile, cette nouvelle initiative devrait être précédée d'une évaluation des opérations précédentes de ce genre. Placide Nzilamba, cadre dans les bureaux de la coordination de la société civile ici au Nord Kivu.
Des opérations qui ont été menées ici comme au Mont Jawetu n'ont fait que disperser les FDLR dans les forêts et au lieu de les mater. Nous pensons que l'Assemblée nationale devait aider cette population de l'Est à rester prudente pour ne pas accepter toute opération avant toute évaluation.
Les forces armées de la RDC ont demandé aux groupes armés de déposer leurs armes et qu'ils se rendent avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas exclu de voir dans les prochains jours un état-major interarmé des forces spéciales de la sous-région qui pourrait être basé à Goma. Charlie Kassereka pour VOA Afrique, Goma.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, la rapporteuse spéciale des Nations Unies en mission dans le pays a déploré l'existence d'une discrimination contre les populations autochtones appelées pygmées. Ces derniers n'ont pas accès aux services sociaux de base comme la santé et l'éducation. Ils n'ont pas non plus droit à la terre pour cultiver. Victoria Dauli-Corpus a demandé aux autorités congolaises de réparer cette injustice. Reportage de notre correspondant sur place, Arsène Séverin.
Malgré les explications des autorités, Dauli-Corpus a mis en relief la discrimination dont sont victimes les peuples autochtones et ce, dans tous les domaines. L'agriculture, la chasse, l'éducation, la santé, voire la participation à la vie publique. La rapporteuse spéciale des Nations Unies.
So I beg to disagree with the views presented that there is no discrimination in Congo. In my discussions with many ministers,
je ne suis pas d'accord pour dire que la discrimination et l'exclusion des peuples autochtones n'existent pas en République du Congo. Ils disent que les Bantous souffrent également d'un manque d'accès aux services sociaux de base. 8 ans après l'adoption de la loi 5/2011, l'analphabétisme reste largement répandu dans les communautés autochtones, y compris dans la Sangha, comme j'en ai été témoin direct.
Le gouvernement a adopté en juillet dernier 6 décrets d'application de la loi sur les peuples autochtones, mais cette loi elle-même n'est pas connue par les communautés. Dailu Corpus.
So I think there's a really a very low awareness about the existence of the law and
j'ai constaté que la majorité des autochtones ne connaissent pas cette loi. J'en appelle donc au gouvernement de renforcer les capacités de ces peuples afin qu'ils comprennent cette loi, qu'elle soit traduite en différentes langues sur des supports audio ou vidéo.
Durant son séjour au Congo, la rapporteuse spéciale des Nations Unies a échangé avec les communautés des autochtones autochtones, tant à Brazzaville que dans les départements de la Sanga et de la Likwala. Jean Ganga, le coordonnateur du réseau national des peuples autochtones du Congo, confirme ce constat.
Donc, pour aller planter, il faut qu'on lui donne cet outil. Et celui qui donne cet outil, c'est le Bantou. Et quand elle plante, ce n'est plus son produit, c'est le produit des Bantou. Et il n'a pas droit à toucher à ça. Et la chasse, quand on a compté 4 cartouches, tu dois ramener 4 gibiers. S'il n'y a pas 4 gibiers, tu as ton compte. On a voté la loi, bien sûr, mais la pratique, elle est où?
Pour accompagner les autochtones dans les écoles, le programme alimentaire mondial a mis en place les cantines scolaires et ses enfants sont prioritaires, explique Jean-Martin Bauer, le représentant du PAM au Congo.
Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais la cantine permet quand même de répondre à la problématique de la pauvreté. Donc en ce moment, nous appuyons une 60aine d'écoles au RA, dans la Likwala et dans la Sanga. Nous avons dans ces deux régions-là environ entre 7 et 8 000 élèves qui sont bénéficiaires de la cantine scolaire, donc c'est un public cible de choix parce qu'il répond justement à la problématique de la pauvreté et de l'exclusion.
Le Congo est l'un des premiers pays africains à avoir adopté une loi sur les peuples autochtones, mais son application traîne à porter les fruits. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Lorsque des astronautes orbiteront autour de la Lune ou en habiteront la surface, ils vivront probablement dans des abris gonflables. Des responsables de la NASA et d'autres et d'anciens voyageurs de l'espace viennent d'en analyser 5 maquettes. Reportage de Jim Randall, repris ici par Lionel Gahima.
L'agence spatiale américaine examine plusieurs modèles pour Gateway, la station de recherche qu'elle se propose de placer en orbite lunaire. Les maquettes ressemblent à des ballons, mais s'avèrent beaucoup plus complexes. La station servira d'abri temporaire aux astronautes en route pour la Lune ou même peut-être pour Mars.
Gateway est un lieu de transit où nous allons assembler les véhicules pour aller sur la surface lunaire et peut-être à l'avenir nos véhicules de transit vers Mars. C'est donc une sorte de plateforme de co-orbite et de voisinage lunaire.
Les abris comprennent des équipements de recherche et des installations permettant aux astronautes d'y vivre et travailler. Les experts analysent ces maquettes pour identifier la plus fonctionnelle. Mike Gernhard est astronaute à la NASA.
La principale préoccupation est de définir ce que nous aimons ou n'aimons pas dans les différents abris et à partir de là, nous allons compiler les données, puis faire des recommandations et même formuler des exigences quant à ce dont nous avons besoin à bord d'un vol spatial.
L'initiative de développement et de construction d'abris spatiaux est née des efforts de l'administration Trump en vue d'envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune d'ici 2024. Le calendrier d'accélérer l'exécution a conduit au lancement du programme Artemis de la NASA. Celui-ci prévoit la construction sur fonds privés de la station orbitale lunaire Gateway, des engins d'alunissage ainsi que de robots explorateurs. Plusieurs spécialistes de l'espace se sont récemment réunis à Las Vegas, dans le Nevada, au siège de la Bigelow Airspace, compagnie de construction spatiale fondée par le propriétaire de chaîne hôtelière Robert Bigelow. Monsieur Bigelow espère, dans un prochain avenir, loger les clients d'une toute nouvelle manière.
Gateway est une opportunité de procéder aux essais de toutes ces structures dans un environnement spatial en prélude à un voyage vers Mars.
Le modèle d'abri spatial B333 de la compagnie Bigelow, lancé à bord d'une capsule et fabriqué à l'aide d'une sorte de tissu devant protéger les astronautes de radiation et des débris spatiaux. Une fois arrimé à d'autres modules Gateway orbitant autour de la Lune, ce module se déploiera alors en habitat de 2 étages pouvant abriter jusqu'à 6 astronautes. Le programme de construction d'habitats et de colonies lunaires devait coûter plus d'un milliard de dollars d'ici 2028.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Yeah,
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.